qui va gagner la bataille pour l'artiste partisan. 12 ans après la mort de l'artiste et partisan de la Seconde Guerre mondiale Alexander Bogen, sa petite fille tente de sauver son vaste domaine. Lorsque les Allemands ont occupé la Lituanie en juin 1941, Alexander Bogen a emporté avec lui un pistolet, des grenades, des crayons et du papier, et est parti se battre. Bogen, étudiant en art à l'université de Vilna, est devenu le commandant d'une unité de partisans dans les forêts. Il a fait sauter des ponts et des chemins de fer utilisés par les Allemands et s'est introduit clandestinement dans le ghetto pour secourir des Juifs. Entre de tels exploits, il a dessiné ce qu'il a vu. Tout le temps, dans les pires conditions, j'avais un crayon et du papier et je dessinais, a-t-il dit plus tard. À notre retour d'une opération, nous nous asseyions près du feu et buvions de la vodka, et tout le monde parlait de ce qui s'était passé. Je me suis assise là et j'ai dessiné les personnages, leurs expériences, leurs vêtements. C'était il y a 80 ans. Bogen a survécu à l'Holocauste et est devenu un artiste acclamé en Pologne juste après la guerre, puis en Israël, après avoir fait son aliyah en 1951. Ses œuvres ont été exposées, et certaines ont été acquises par Yad Vashem, au musée américain de l'Holocauste à Washington, à la maison des combattants du ghetto, au musée d'art de Tel Aviv et dans d'autres lieux. Mais depuis sa mort il y a 12 ans à l'âge de 95 ans, sa succession, qui comprend des milliers d'œuvres, certaines qui ont survécu à l'Holocauste et d'autres qui en ont été inspirées, s'est mêlée à la discorde familiale et aux querelles juridiques et bureaucratiques, ce qui l'a rendu moins accessible aux érudits et aux amateurs d'art. L'argent n'aurait pas dû être un obstacle à la préservation de son héritage artistique. Son testament indique qu'il a laissé derrière lui des millions de shekels d'actifs. Mais plusieurs questions ont compliqué les choses, d'abord et avant tout le fait que le souci de son domaine artistique n'était pas clairement exprimé dans son testament, dont la majeure partie est consacrée au bien-être financier de son fils unique, Michael. Il a laissé des instructions contradictoires concernant ses œuvres d'art. D'une part, il a ordonné que « tous les tableaux et peintures créés par moi, tous les objets d'art qui appartiennent à mon domaine, seront vendus par l'intermédiaire de marchands d'art ». D'autre part, il a également donné des instructions « si un musée portant mon nom est construit et, ou une aile de musée dédiée à mon nom, ce qui précède doit être annulé et toutes les photos et peintures que j'ai créées seront données à ce musée pour la commémoration de mon nom ». Bogen n'était pas représenté par une galerie d'art ou un marchand d'art. Il a nommé l'avocat Aminadav Kosovski-Chakor comme exécuteur testamentaire de sa succession, et l'avocat dit que son impression était que Bogen préférait la commémoration à la vente de ses œuvres. La petite fille de Bogen, Tali, était convaincue de la même chose. Cependant, c'est là qu'a commencé une bataille juridique laide, Tali Bogen accusant les gérants de la succession de son grand-père d'avoir négligé les œuvres d'art qu'il avait laissées derrière lui, et proposant un plan pour préserver son héritage. Ils affirment qu'elle a fait une descente dans son studio, qu'elle a pris le contrôle de ses œuvres et qu'elle essaie de soutirer de l'argent de la succession contrairement au testament. J'ai bien compris le sourire ? Bogen, dont le nom de famille original était Katzenbogen, est né en 1916 en Estonie. Ses deux parents étaient médecins, son père a été tué pendant la Première Guerre mondiale et sa mère a été assassinée pendant l'Holocauste. Il a grandi à Vilna, où il a étudié la peinture et la sculpture à l'université jusqu'à l'occupation allemande. À cette époque, il avait 25 ans et était marié à Rachel, et il a décidé de rejoindre les partisans, pour lesquels il commandait une unité d'opération spéciale. Avant la liquidation du ghetto de Vilna, il s'est introduit clandestinement et a aidé à former 150 membres du métro juif avant qu'il ne s'échappe dans les forêts. J'ai distribué des armes primitives et des copies de cartes de la forêt que j'avais préparées. Je leur ai appris à combattre l'ennemi, à trouver de la nourriture, à lire une boussole, à se cacher, toutes les informations tactiques dont un partisan a besoin, a-t-il dit. Interviewé par Michal Sternin et Merav Janot de Yad Vashem, Bogen a décrit comment Abba Kovner l'a initié aux artistes juifs dans le ghetto. « Nous avons traversé les ruelles et sommes montés au troisième étage. La porte s'est ouverte et nous avons vu la peintre Rosa Sutskever, qui était l'une des principales artistes de la ville avant la guerre, debout près de son chevalet et peignant un portrait. Et elle me demande, « Alexander, dis-moi, ai-je capturé le sourire de mon mannequin ?» Elle était très heureuse malgré la faim. Et je me suis demandé, « Bon sang, comment est-ce possible ? Comment est-il possible que chez une personne sur le point de mourir, ce désir d'expression artistique soit plus fort que nature ? Un autre souvenir de l'Holocauste a trouvé son expression dans ses œuvres d'art. Quand j'étais dans le ghetto, j'ai vu une petite fille avec une poupée debout à côté d'un mur. Je lui ai demandé où étaient ses parents. Ils avaient déjà été emmenés dans des camps de concentration et elle se tenait debout comme ça, sans pleurer, et elle tenait la main de la poupée, a-t-il déclaré. Et moi, un homme armé d'une arme de poing et de deux grenades, un homme fort, je me tenais devant cette misérable créature, et je n'ai pas pu m'empêcher. Sa petite-fille Tali dit, il a compris que s'il faisait quelque chose, cela mettrait en danger toute la mission à laquelle il avait été envoyé, et que la seule chose qu'il pouvait faire était de la dessiner. Depuis, cette fille est devenue le récit formateur de sa vie, comme sa boussole. Comme l'a dit Bogen, j'ai sorti mon crayon et je l'ai dessiné, presque inconsciemment. Après la guerre, je me suis demandé, qu'avez-vous fait? Comment as-tu pu faire une telle chose et agir de façon aussi instinctive? Peut-être que c'était un sentiment de, disons, un sentiment de survie. À une autre occasion, il a dit, nous avons vu des enfants abandonnés, nous avons vu des gens être conduits à l'abattage, et je n'ai jamais posé mon crayon. Un artiste condamné à mort immortaliserait des personnes vouées à la destruction. Il s'est demandé, s'agissait-il d'une expérience purement esthétique? Est-ce que j'étais en paix avec ma conscience? Transformer une mère endeuillée, une orpheline et un vieil homme mourant en modèle? Depuis 2011, Tali Bogen vit dans l'atelier de son grand-père sur la rue Ben Shapru à Tel Aviv, aux côtés de centaines de ses œuvres qui y ont été laissées et de milliers de pages d'archives documentant son travail. Un tribunal a affirmé qu'elle était « accroupie sans autorisation », mais elle affirme que d'un point de vue juridique, elle « n'est pas encore accroupie », expliquant qu'elle y reste afin de servir de bouclier humain à ses œuvres. Elle parle de « négligence sévère », tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, au studio, qui se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble. Jusqu'à l'été, la municipalité de Tel Aviv avait classé le bâtiment comme une structure dangereuse. Même après les rénovations, Tali Bogen affirme que certaines parties sont encore en train de s'effondrer. Un jour, un bloc de ciment m'est tombé dessus. Ça met en danger le domaine, dit-elle. Quoi qu'il en soit, la structure sera démolie pour faire place à un nouveau bâtiment. En 2014, le docteur Doron Luria, ancien restaurateur en chef du musée d'art de Tel Aviv, a examiné l'atelier et les œuvres qui y sont conservées. Pendant des années, les conditions de stockage des œuvres étaient terribles. Ils étaient entassés ensemble au milieu de la saleté et de la poussière, et à risque de moisir, a-t-il écrit. Il dit que grâce aux efforts de Tali Bogen, leur état est incommensurablement meilleur aujourd'hui. En 2013, plusieurs centaines d'œuvres ont été déplacées du studio vers une installation de stockage, dit Tali, après avoir catégoriquement insisté pour que tout soit catalogué et archivé professionnellement, un travail que j'avais commencé moi-même. Plus tard, elle dit avoir catalogué 2000 autres objets laissés par son grand-père, mais qu'en dépit de ses efforts, ils n'ont été transférés au centre de stockage qu'en 2017. Luria a averti que dans la salle de stockage, les œuvres ne sont pas correctement entretenues. Il est déconseillé de laisser les photos enveloppées pendant une longue période, plus de quelques mois, parce qu'elles peuvent développer des bactéries. Elle prévient que des dommages irréversibles ont été causés à certaines œuvres. Dans les archives de son grand-père, Tali a trouvé plusieurs trésors, y compris des écrits à son sujet par son collègue, le poète yiddish Abraham Sutskever, qui a été sauvé du ghetto avec l'aide de Bogen. Sutskever a comparé Bogen à un aigle qui, avec la force de ses deux ailes, peut surmonter la foudre et le tonnerre, ajoutant que l'aile de commandant partisan de Bogen protégeait son autre aile d'artiste. Sutskever a détaillé comment Bogen continuait à dessiner même dans les conditions impossibles des forêts. J'ai suivi mon ami avec suspense et amour quand son œil artistique a vu et entendu, quand il a dessiné avec des bouts de charbon qu'il a sauvés d'une branche qui avait fini de brûler et avec un stylo rouillé trempé dans une encre, faite à partir de murs. Un ange bienveillant lui a apporté des feuilles de papier provenant des villages de la région. Pendant son séjour dans la forêt en tant que partisan, Bogen a parfois dû se séparer de ses œuvres. Quand nous avons appris que les Allemands approchaient, j'ai pris une boîte en fer blanc, j'ai mis tous mes dessins sous un pin et j'ai marqué l'endroit, de sorte que lorsque les Allemands sont partis, je puisse revenir et le prendre. Bien sûr, je n'ai pas trouvé l'arbre, a-t-il dit. Mais certaines de ses œuvres ont été sauvées lorsque Sutskever les a emmenées avec lui dans un avion qu'il a extrait de la forêt en 1944 sur ordre de Staline. D'autres dessins ont été cachés par un commandant russe parmi les partisans, qui les ont rendus à Bogen en Pologne à la fin de la guerre. D'autres œuvres ont disparu. Je ne considère pas cela comme de l'art pour le bien de l'art. Ce n'est pas comme être un artiste qui est assis dans son atelier et qui pense à la composition et à la couleur et à une idée et à une expression, a dit Bogen à propos de sa production artistique pendant l'Holocauste. C'était une réaction spontanée à des faits auxquels vous étiez confrontés. Soudain, quand vous voyez quelque chose d'horrible, vous sentez que d'ici, du cœur, un courant électrique vient dans votre tête et vous faites cette chose. Chaque personne réagit aux horreurs et à ce qui se passe. L'un avec des larmes et l'autre avec un fusil, et j'ai réagi avec un crayon dans une main, et avec un fusil dans l'autre. Révélation sur le Mont Méron, après la guerre, Bogen a terminé ses études artistiques et après avoir été acclamé en tant qu'artiste à Łódź et Varsovie, a été choisi comme professeur d'art en Pologne. J'avais des commissions du gouvernement, j'avais un grand studio et un bel appartement. a-t-il dit. Il a peint et sculpté, et a également fait des illustrations et des décors. Ses fresques ornaient les murs de nombreux bâtiments publics. En 1951, il a déménagé en Israël avec sa femme Rachel et leur unique enfant Michael. Lorsqu'il a voulu emporter ses peintures avec lui, il a découvert que les autorités polonaises ne l'autorisaient pas. Ce n'est que plus tard, grâce à l'intervention du président israélien Yitzhak Ben-Zvi, que certains de ses dessins lui ont été rendus. « J'ai émergé de la tombe dans la grande lumière, en Israël. Je me suis découvert ici. Une personne libérée, pleine d'enthousiasme pour la lumière, le soleil, l'air, le paysage, les gens. Je renaissais », a déclaré Bogen à l'époque. « Je ne suis pas un artiste de l'Holocauste, mais un artiste qui a participé à l'Holocauste », a souligné Bogen. Malgré sa tentative de combattre le surnom, l'artiste partisan, il a été appelé ainsi jusqu'à son jour de mort. Pour nous, à Yad Vashem, c'est un artiste très important, presque unique en son genre, explique le docteur Eliad Morey-Rosenberg, conservateur et directeur du département artistique du musée. Il y a d'autres artistes partisans, mais pas comme ça et pas avec une œuvre aussi impressionnante. La façon dont il a adhéré à l'art, dans ces conditions, est inspirante. C'est tout simplement une histoire merveilleuse de résistance physique et spirituelle. En Israël, Bogen a peint des paysages et des personnages. Au début, il a été particulièrement impressionné par « les gens de l'Est », comme il l'a dit, les types du Maroc, de Tunis. Bien qu'il ait manqué la verdure de l'Europe, à la fin, il a dit « j'étais heureux avec le ciel bleu d'Israël, même si au début, cela lui ressemblait à une jungle. Quand j'ai escaladé le mont Méron pour la première fois, je ne croyais pas ce que je voyais », a-t-il dit un jour. En Europe, plus on s'éloigne, plus la tache colorée s'éloigne. Ici, j'ai vu le lac Kinneret comme une tache de couleur sur ma main. Plus tard, parallèlement à l'art figuratif, il a également expérimenté l'art abstrait. 5 ans après son aliya, l'artiste Pezel Friedberg a écrit des critiques à son sujet. Il est honoré de cette même sensibilité à la couleur qui est la qualité unique d'un artiste moderne. Ses œuvres donnent l'impression d'une abondance de moyens. Il obtient de merveilleux effets et il sait utiliser les couleurs de façon sensuelle. Dans l'espace public, il a conçu le mémorial des partisans à Latrin, et il a également sculpté en bois le portail d'entrée du musée Jabotinsky à Metsouda Ze'ev à Tel Aviv. Il a créé et dirigé le département artistique de l'école d'art Wiso France à Tel Aviv, et a été président de l'Association des peintres et sculpteurs d'Israël. La succession est-elle un fardeau? Après la mort de Bogen, sa petite-fille Tali est retournée en Israël après avoir vécu à l'étranger et a tenté sans succès de devenir exécutrice testamentaire de son domaine artistique. Depuis plus de 20 ans, elle a participé à des projets artistiques en Israël et à l'étranger, et est actuellement responsable des ressources, des partenariats et du développement numérique pour la Maison des artistes de Tel Aviv. Par deux fois, en 2017 et 2019, elle a traduit en justice les gérants de la succession de son grand-père. Si le gérant du domaine ne s'inquiète pas du sort du domaine, qui le sera? Elle a écrit. Elle a décrit ses demandes répétées des gestionnaires de la succession, de sauvegarder la collection de photos et d'œuvres du défunt. Au cours de l'une des procédures, l'exécuteur testamentaire Kosovski Chakor a déclaré qu'il considérait son travail principal comme une préoccupation financière pour le fils de Bogen plutôt que son héritage artistique. « Je comprends moins l'art », a-t-il avoué. « Les actifs artistiques sont un fardeau pour le domaine, à mon avis. » Tali Bogen est contrariée par la référence aux œuvres de son grand-père comme un fardeau. Elle affirme que le gérant du domaine fait peu pour exécuter le testament lorsqu'il s'agit de ce trésor artistique. Pour cette partie, il a qualifié ces affirmations des apostrophes, insultantes, affirmant qu'elles sont « une distorsion complète de la situation factuelle » et qu'il « suit méticuleusement le désir du défunt dans son testament ». Kosovski Chakor a déclaré à la cour qu'il « travaille constamment à la recherche d'un ». La seule offre concrète que les gestionnaires du domaine ont pu présenter était de transférer quelques-unes des œuvres de Bogen au musée Eshal Shlomo de Jérusalem, une offre que Tali Bogen décrit comme « négligeable et marginale ». Tali a présenté son propre plan pour la préservation de son grand-père, qui comprend la création d'une fondation en son nom qui serait impliquée dans la recherche, la documentation et la diffusion de son travail. Le projet, qui a reçu la bénédiction de son père, le fils de Bogen, prévoit également la création d'un musée virtuel. À cette fin, Bogen a recruté des figures de premier plan dans le monde de l'art. L'une d'elles, Galia Baror, l'ancienne directrice du musée d'art d'Einarod, a écrit que « l'importance de la recherche, de la documentation et de la préservation de son vaste travail est inestimable », et qu'apostrophe, avec la mort de Bogen et la génération d'artistes qui ont travaillé avec lui, nous devons faire preuve de responsabilité pour ce qui reste. Sur la question, elle a averti, Beaucoup de domaines d'artistes en Israël ont été dispersés dans toutes les directions et leur travail a été oublié et irrémédiablement perdu. Baror soutient le projet de Tali pour créer une fondation, et a eu l'impression qu'elle est entièrement engagée à perpétuer son héritage. Il en va de même pour Luria, qui a écrit que Tali fait son travail avec dévouement, dans le but de perpétuer la mémoire de son grand-père et son héritage artistique, tout en utilisant les connaissances qu'elle a accumulées tout au long de ses années en compagnie de son grand-père. Prof. Avraham Noverstern, directeur de la maison Shalom Aleirem, s'est joint à la mêlée, exprimant son intérêt personnel pour les liens étroits de Bogen avec les écrivains et poètes de langue yiddish. Bogen a illustré les livres de Haïm Grad, Abraham Sutskever et Abraham Karpinovitz, entre autres. Il a eu la chance que sa petite fille, qui a acquis une grande expérience dans la direction d'initiatives culturelles nombreuses et variées, se consacre maintenant à l'entretien de son travail. Mais les gestionnaires du domaine ont rejeté le plan de Tali Bogen et sa demande de budget pour le mettre en œuvre, et ont déclaré que son grand-père ne l'avait pas fait ordonner dans son testament la création d'une fondation pour préserver son héritage artistique. Le plan, prétendent-ils, s'oppose et contredit les instructions de la volonté dans une très large mesure. Ils affirment qu'elle essaie de prendre possession de toute l'activité requise pour perpétuer les œuvres du défunt, en échange d'un salaire considérable, et que l'intention réelle derrière son plan est de retirer l'argent de la succession en somme considérable en opposition au testament, et vider la succession. Ils avertissent que l'acceptation de son plan serait une aventure dangereuse. Tali Bogen prétend en réponse que sa proposition comprend la création d'un fonds public et la nomination à son comité, de sorte que, dans tout cas, elle ne serait pas en mesure de recevoir personnellement de l'argent du fonds. Le tribunal a rejeté les demandes de Bogen et a laissé la gestion de la succession entre les mains de ses administrateurs. Malgré mes demandes répétées, la demanderesse continue de me faire des remarques, essaie de nuire au gérant de la succession et il semble que mes demandes d'elle de se taire tombent dans l'oreille d'un sourd. L'a réprimandé le juge. Son frère, le journaliste Amir Bogen, voit également les choses différemment et pense qu'Israël n'a aucun intérêt à commémorer son grand-père et à promouvoir son héritage artistique. Tragiquement, la valeur et la réputation de mon grand-père en tant qu'artiste n'ont pas été préservées, dit-il. Contrairement à Tali, Amir ne s'oppose pas au gérant du domaine. Impossible de s'attendre à ce que les avocats, qui sont chargés de gérer ses actifs, fassent des miracles et fassent une fois de plus de grand-père la chose la plus chaude de l'art israélien, dit-il. Il affirme que les musées, les galeries, les conservateurs et les marchands d'art n'ont pas manifesté d'intérêt à acquérir ou à exposer les œuvres dans le domaine. Grand-père ne voulait pas être étiqueté artiste de l'Holocauste, mais les musées ne s'intéressent qu'à ses œuvres sur l'Holocauste et non à son œuvre ultérieure, résume Amir. Il s'est senti incapable de quitter ce ghetto, dans les deux sens du terme. Pendant ce temps, Tali continue de commémorer son grand-père malgré les limites. En plus d'un catalogue de certaines de ses œuvres, elle a créé un site web sur son grand-père et s'est même entretenue avec la municipalité de Tel Aviv, ce qui a conduit à l'érection d'un panneau commémoratif à l'entrée de sa maison en 2018. Ses liens avec Yad Vashem ont contribué à la sélection d'un tableau de Bogen qui figurera sur l'affiche de la cérémonie officielle du jour du souvenir de l'Holocauste en 2010. Bogen a également noué des liens avec des chercheurs du monde entier qui s'intéressent au travail de son grand-père et dont certains ont commencé à l'étudier. Il était vraiment plus grand que nature. Il était le grand-père et la personne les plus aimants, les plus étreints, les plus intelligents, les plus instruits, les plus inspirants, les plus stimulants et les plus sensibles. Parmi les documents importants qu'elle a trouvés dans sa succession figurait une lettre écrite à la main par l'actuel ministre des Affaires étrangères Yair Lapid alors qu'il était enfant. « Merci beaucoup d'être venu et pour votre beau cadeau qui m'a beaucoup plu et m'a ouvert une certaine voie vers des types de peintures que je ne connaissais pas », a écrit Lapid à Alexander Bogen. « Pour moi, votre peinture est une sorte de porte d'entrée vers un autre monde. » Ses parents, Yosef, Tommy et Shulami, ont ajouté un commentaire, « Parce que nous, les parents, aimons le tableau encore plus que Yair, nous ajouterons nos remerciements à son »